un thème qui est magistral et magnifique à méditer pendant ce temps de l'Avent, Adventum, ce qui arrive, ce qui vient. Parce que c'est, voilà, comme le dit Père Bernard, c'est notre vocation profonde, ce chemin de divinisation, de déification. Il y a cet adage patristique très connu, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il y a plein d'autres variantes de cette phrase, comme Dieu veut expérimenter l'homme pour l'être humain, pour que l'être humain expérimente Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur veut vivre parmi nous ce que nous devons vivre. C'est vraiment le mystère de la transformation. On pourrait dire qu'on est né pour être transformé. Dieu lui-même en Jésus-Christ vient nous montrer comment cela se passe. Il nous ouvre le chemin et mieux que ça, il est lui-même le chemin en nous, si on le laisse la place. Et c'est une transformation essentielle pour Dieu, pour la source, cette incarnation. C'est un passage inouï, une Pâque, et pour nous aussi, ce chemin de divinisation est aussi une transformation essentielle, tellement essentielle qu'il n'y en a pas d'autre, qu'il n'y a pas d'autre sens à notre vie que celle-là. On pourrait dire qu'on ne devient vraiment humain que si on touche, voilà, ce mystère divin en nous. Alors voilà, dans notre vie horizontale, biologique, on fait plein de choses, on a des préoccupations, des soucis, des activités. Mais au fond, c'est cette verticale, ce chemin intérieur qui est l'axe de toute notre vie. Et parfois, enfin, le fait de se rassembler à la liturgie, en paroisse, pour des journées comme ça, d'entrer dans l'Avent, d'entrer dans le carême, eh bien, ça vivifie, ça vient éveiller ce souvenir-là que l'essentiel, voilà, c'est cet axe vertical. À chaque instant, je commence, à chaque instant, je peux entretenir cette relation amoureuse avec le Créateur. La déification est comme le deuxième mouvement d'une grande symphonie dont le premier mouvement, c'est l'incarnation. Dieu vient à notre rencontre en prenant un corps, et bien nous, c'est aussi en habitant notre corps qu'on va le rencontrer. Donc l'incarnation et la divinisation sont inséparables. Un autre mot pour divinisation, c'est déification ou en grec théosis. Et cette notion-là, que Dieu se fait porteur de la chair pour que l'homme puisse devenir porteur de l'esprit, implique que Dieu descende, y compris jusque dans nos enfers, pour nous amener avec lui dans cette grande montée céleste. Il se limite pour que nous puissions nous illimiter. C'est ce que saint Pierre dans sa deuxième épître exprime en disant que nous sommes appelés à participer à la nature divine. Il n'y a que Dieu seul qui puisse sauver. Et en même temps, il est essentiel que ce Dieu s'incarne. Pourquoi ? Parce que seul le même peut sauver le même, dit saint Grégoire de Nazianze. Ou encore, ce qui n'a pas été assumé ne peut être sauvé. C'est pourquoi le Christ nous sauve en partageant notre humanité et nous rendant alors capables de partager ce que lui-même est. Cette incarnation du Verbe agit comme un bras de levier qui va non seulement nous soulever, mais aussi soulever l'univers entier, tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux, vers la vie divine. Et ce mystère de déification nous remet dans l'axe de la rencontre avec ce Dieu qui est triunique, qui est éminemment relationnel, hein, Dieu en trois personnes, chaque personne qui dit tu à l'autre. C'est la rencontre, la relation avec, premièrement, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le tout autre, avec Dieu, qui est le fondement de notre vie. Saint Macaire, qui est un grand moine du désert de Cété au IVe siècle, c'est un disciple de Saint Antoine, il qualifie même l'enfer. Pour lui, l'enfer, c'est un lieu où on ne peut pas voir le visage des frères et des sœurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette image où on voit un grand banquet nuptial au ciel et chacun a une immense cuillère pour pouvoir nourrir l'autre, mais il ne peut pas se nourrir soi-même, il ne peut que voilà, distribuer la nourriture aux autres. Alors, ne pensons pas que ces doctrines soient réservées juste à une élite de théologiens ou à des personnes qui aiment réfléchir sur les mystères divins. En fait, pour nous chrétiens, cette divinisation bouleverse toute notre façon de voir, notre rapport au monde, notre rapport au temps, notre relation à Dieu. Donc, il ne s'agit pas de parler de Dieu, ni encore moins d'y penser, mais de nourrir cette attitude vitale qui est juste de l'aimer et de nous laisser aimer de lui. Père Alphonse insistait souvent en disant que le chrétien, il n'est pas différent des autres, il a exactement les mêmes problèmes, névroses, soucis, mais ce qui le différencie, c'est qu'il a quelqu'un dans sa vie. Voilà, pour l'accompagner, pour cheminer avec lui. Ce quelqu'un ne désire qu'une seule chose, que nous soyons un, unifiés, avec lui, Père, Fils et Saint-Esprit, et que nous partagions sa gloire. Gloire qui est traduite par chouraki, par présence. Le Christ dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé, dans Jean 17. Alors cette notion de gloire, elle est apparentée à une atmosphère, un rayonnement, que verra d'ailleurs Ézéchiel, le prophète. Et c'est intéressant de revenir à l'étymologie hébraïque. La gloire kavod, c'est le poids, être lourd d'une présence. Cette présence dans l'Ancien Testament, elle habite la tente de rendez-vous de Moïse, le temple de Jérusalem. Voilà. Si dans l'Ancien Testament, on pouvait contempler la gloire, mais pas la pénétrer, juste la contempler, eh bien, dans le Nouveau Testament, la gloire se laisse toucher, palper par les apôtres. Elle s'incarne. Alors, notre grande vocation, c'est de devenir ce que nous sommes en Dieu. Dans le fond de notre être, eh bien, il y a un soupir, un désir d'être complètement dans la plénitude, dans la béatitude, d'être complètement unifié, uni aux autres, à Dieu, rassasié de vie, saturé d'être, saturé de joie. En un mot, notre rêve profond, notre grand désir, c'est d'être uni à Dieu, d'être semblable à lui. Et ce rêve-là, eh bien, ça tombe bien parce que c'est vraiment justement ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce que Dieu veut pour nous. en créant l'être humain, c'est-à-dire chacun de nous initialement et ici et maintenant, Dieu se communique à nous. Il veut nous combler au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir, comme le dit saint Paul. Et chacune et chacun de nous, on a cette vocation de créer du beau, du bon, du vrai, à notre manière inimitable, pour accomplir pleinement notre humanité en nous laissant combler par Dieu. Nous sommes des temples pour recevoir cette gloire divine, pour communier au grand rythme trinitaire de la création. Le poète Rilke dit « N'oubliez pas que vivre est gloire ». Et cette vocation glorieuse de l'être humain et par extension de l'histoire collective de l'humanité, dans le récit mythique, a pris une tournure tragique. Il y a eu cet exil qui nous a empêché de mener la matière et l'esprit créé à leur accomplissement. Et cela a induit dans le monde la souffrance et la mort. Mais le Christ, qui est le nouvel Adam, va lui-même accomplir cette vocation à notre place pour nous et pour nous montrer, voilà, c'est possible, continuer cela. Et il rend à la chair et à l'esprit leur potentialité de participer à la vie divine. Alors Maxime le Confesseur appelle le Christ l'archétype de la synthèse parce qu'il dépasse toutes les polarités, il unit le ciel et la terre, l'humain, le divin, le masculin, le féminin, le limité et l'illimité, le repos et le mouvement. Alors, il nous sauve parce qu'il est fils de Dieu, mais c'est très important aussi de rajouter qu'il nous sauve parce qu'il est fils de Marie, fils de l'humanité. Il fallait que le nouvel Adam, le Christ, unisse sa volonté à celle d'une nouvelle Ève. Et pour l'orthodoxie, la mère de Dieu est vraiment l'exemple par excellence de ce qu'on appelle la synergie divino-humaine. Cette participation libre qu'on a au plan divin. Saint Nicolas Cabasilas, qui est un théologien du XIVe siècle, affirme que si l'incarnation est l'œuvre de la Trinité, on dit que le Père consent, le Fils descend et l'Esprit Saint couvre de son ombre, eh bien, elle est aussi l'œuvre de la volonté, de la liberté et de la foi de Marie. Foi, liberté, volonté. Alors c'est vrai pour nous aussi. Dieu prend l'initiative, mais notre réponse est nécessaire, est essentielle. Et cette réponse-là, elle implique la foi, la liberté et la volonté. Il y a eu un conflit théologique à une époque avec Pélage et Augustin, l'un qui disait que c'est l'effort qui compte dans notre chemin spirituel et Saint Augustin, lui, dit « Seule la grâce compte », mais en fait, c'est les deux, l'effort et la grâce. Il y a une synergie. Jean-Yves Leloup écrit « Un oiseau pour voler a deux ailes. L'être humain a besoin de la sève et de la grâce. Et si je ne veux plus ramer, je dois lever les voiles. Mais le fait de lever les voiles ne fait pas lever le vent. » Voilà, il y a l'action de l'Esprit-Saint. Et puis, il y a notre adhésion, notre liberté de dire oui. Et certainement notre ascèse aussi. En contemplant sa mort et sa résurrection, nous voyons non seulement la victoire de Dieu, mais la victoire de l'être humain. Jésus se faisait appeler le Fils de l'homme, vraiment pour insister sur le fait que il est venu accomplir et assumer notre chemin. Le Christ exprime ce que nous serons quand nous aurons atteint la ressemblance. Alors, il y a une belle expression aussi de Grégoire de Nazianze qui dit que on est sans cesse travaillé par un jet divin qui nous anime et que tant que notre âme ne sera jamais en repos, tant qu'on ne se laisse pas complètement envahir, habiter par l'Esprit Saint, tant qu'on ne se laisse pas chercher et trouver par Dieu, tant qu'on n'a pas réalisé ce programme de déification, eh bien, il y aura toujours en nous une espèce de nostalgie, un nostos. C'est cet élan qui nous pousse à rechercher quelque chose qu'on a déjà pressenti. Alors, on peut se poser aussi la question... Être immortel, devenir des dieux, est-ce que c'est pas un peu le projet transhumaniste? Est-ce que ça fait pas partie des grands délires de l'humanité de devenir dieu et de se passer de dieu? L'antique serpent, le Satan, l'ennemi juré du genre humain, n'a-t-il pas fait miroiter à nos premiers parents ce désir « vous serez comme des dieux » en Genèse 3? Alors oui, on connaît toutes ces expériences pour rallonger artificiellement la vie de l'homme, pour en faire un homme augmenté, pucé. Et l'erreur de visée, ce n'est pas de vouloir devenir Dieu, mais c'est de vouloir devenir Dieu, sans lui. Ou contre Dieu. C'est ça le péché. Oublier notre origine. Alors que Dieu, cet amoureux fou, désire vraiment, tout son désir, c'est de nous inviter à partager sa propre vie. Donc quand on parle de déification de l'être humain, il convient de garder à l'esprit que rien n'est possible sans Dieu. Nous ne pouvons devenir Dieu par nos propres efforts, ni par notre propre force, ni encore moins par des prouesses scientifiques, mais uniquement par grâce divine et par un long chemin de purification, de prière, d'humilité, de foi. Alors, il est bon de nous rappeler aussi que notre origine, elle est terrestre et céleste. L'hébreu, étymologiquement, c'est toute personne qui est en marche. On se met en marche parce que la vie nous questionne. Grégoire de Nice, de nouveau lui. En fait, je cite pas mal de théologiens et je suis émerveillée de voir comment, dans leur façon de s'exprimer, c'est de la poésie. Il y a rien de sec ou de rationnel. On sent que vraiment, ils ont envie de partager une expérience de feu qu'ils ont faite et que les paroles qui jaillissent, c'est souvent des images très poétiques. Alors, Grégoire de Nice dit « Dieu infini a déposé en l'être humain un désir infini que le fini ne pourra jamais combler. » En fait, nous sommes... comme je l'ai dit, terrestre et céleste, et parfois on croit qu'on est terrestre et que notre vocation c'est de devenir céleste. Mais la parole biblique au premier chapitre de la Genèse annonce que nous sommes créés à l'image de Dieu, capables de ressemblance. Donc selon cet ordre, Adam serait d'abord céleste avant d'être terrestre. D'où, comme je l'ai dit, cette soif, cette nostalgie, ce désir qui nous tenaille et qui nous met en mouvement. C'est comme si cette image divine imprimée en nous, eh bien, venait nous dynamiser. Donc, nous sommes en quête de notre origine céleste, que nous acceptions de la nommer ou pas. Et cette quête, c'est une mémoire de l'origine. Platon déjà affirmait, si l'homme peut penser Dieu, c'est que Dieu est en lui, car il ne peut penser quelque chose qu'il ne connaît pas. Et saint Augustin fait dire à Dieu, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Donc nous sommes un reflet de cette beauté divine et nous sommes revêtus d'une dignité royale. Et c'est bon alors de nous souvenir que c'est la beauté et l'amour qui sont originels et non ce fameux péché originel. C'est la liberté qui est originelle et non l'aliénation. La vie en l'homme vient de sa profondeur et jaillit alors vers l'extérieur, contrairement à la maladie qui va pénétrer, qui va nous pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi la vie spirituelle est une quête de l'origine et se vit dans un retour vers le plus intime de nous-mêmes. Voilà, cette impulsion de vie qui est inscrite en nous, eh bien, elle est liée à une mémoire qui est dans notre ADN, de notre origine. Cette image est appelée à devenir une avec le modèle, le prototype, à savoir le Christ, qui lui-même est l'image visible de la source invisible. Alors, notre tâche, une tâche urgente dans la vie spirituelle, c'est de renouveler l'émerveillement devant le miracle de notre propre personne et devant la dignité de notre vocation. Alors, encore un père qui parle tellement bien, c'est Origène au IIe siècle. Comprends que tu es un autre univers, un univers en petit, qu'il y a en toi soleil, lune, étoile aussi. S'il n'en était pas ainsi, le Seigneur n'aurait pas dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Hésites-tu encore à croire qu'il y a en toi soleil et lune quand on te dit que tu es la lumière du monde? Au 7e siècle, saint Maxime le Confesseur, quant à lui, nomme l'être humain macrocosme, car l'être humain dépasse même le cosmos, et parce qu'il le dépasse, il peut l'assumer pour le vivifier. Déjà Blaise Pascalin disait, l'homme passe infiniment l'homme. Les pères et les mères de l'Église n'ont cessé de célébrer cette grandeur irréductible de notre nature, ce sans fond qui est le lieu de Dieu. Alors on peut dire que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien on échappe à toute définition, on est insaisissable, et que si nous sommes le lieu de Dieu, Dieu est notre lieu aussi. On ne pourra jamais être réduit à des données biologiques, psychologiques, sociologiques, justement parce que nous sommes capacités où Dieu peut venir habiter et par où nous pouvons nous élancer vers Dieu. Donc la période de l'Avent est propice à ce creusement de l'être. Encore Blaise Pascal dit, l'être humain est un creux en forme de Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut le combler. Et c'est vraiment toute cette période de l'Avent où on vient creuser la grotte intérieure pour accueillir le Christ. Ce sont souvent nos faiblesses et nos pauvretés qui révèlent les creux. Donc peut-être qu'avant de parler de déification, c'est important de devenir d'abord humain. Il s'agit, en faisant appel à cette empreinte de Dieu en nous, de prendre soin de ce creux, accepter l'humus de notre condition humaine, dans la reconnaissance de nos faiblesses, de nos failles, de nos blessures, lesquelles, une fois reconnues, confessées, nommées, sont offertes à Dieu et alors peuvent devenir paradoxalement des grands lieux de guérison. Des lieux de grâce, des fenêtres où s'engouffre vraiment l'Esprit Saint. C'est ce que font les saints qui ne s'appuient non sur leur finitude, mais sur la présence divine. Alors, comme nous le savons tous, ce chemin d'accomplissement passe par une mort, un passage, c'est passer de moi à Dieu en moi, de ma volonté à la volonté de Dieu en moi. Et cette mutation s'opère non seulement par l'irruption de la grâce divine, mais aussi par l'accord de notre liberté. Dieu ne veut pas nous sauver sans notre consentement volontaire. Alors, le fondement anthropologique chrétien des premiers siècles, c'est dans la Genèse, Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, capable de ressemblance, hein, pourvers capable », c'est le même mot en hébreu. Créer à l'image veut dire que tout est possible, et capable de ressemblance veut dire que tout reste à faire. L'image est donnée, elle se rapporte à la constitution de la nature, et la ressemblance, elle, est inachevée, elle dépend de notre liberté personnelle. Alors, cette notion de liberté est essentielle, évidemment, dans l'amour. Il y a le fait d'accepter et d'assumer toutes les étapes de la maturation avec persévérance. Et saint Irénée va parler du péché en termes d'enfantillage. Il ne va pas présenter Adam comme un homme parfait qui aurait chuté et qui serait exilé, mais comme un petit enfant inexpérimenté qui est appelé à grandir, à se développer, c'est-à-dire un être perfectible, en devenir. Et le grand drame d'Adam, c'est d'avoir voulu brûler les étapes. Il place Adam, c'est-à-dire chacune et chacun de nous, face à notre liberté et notre responsabilité. Voilà, nous ne sommes pas du tout responsables de ce qui nous arrive dans la vie, mais par contre, nous sommes responsables de la manière dont nous accueillons ces événements. C'est l'étymologie de responsabilité, c'est répondre de. C'est pourquoi notre vie est tissée d'événements, mais elle se construit par notre attitude face à eux. En ce sens, nous participons librement à notre destinée. Saint Irénée nous rappelle notre grandeur, notre dignité de fils de Dieu en devenir, notre conscience qui fait de nous des êtres de croissance jusqu'à la pleine stature du Christ. Donc, cette perfection, c'est l'union avec Dieu. Dieu t'a formé, laisse-le achever son œuvre en toi. Sois une patte souple entre ses mains, dit-il encore. Ça, c'est important de comprendre que si la perfection nous avait été donnée d'emblée, eh bien, on n'aurait pas eu cette liberté, on n'aurait pas eu cette occasion de faire nous-mêmes ce chemin. Et d'exprimer notre désir vers Dieu. On aurait été des marionnettes. Un théologien orthodoxe qui s'appelle Serge Bulgakov dit « La liberté consiste en la possibilité en voie d'actualisation, mais pas encore réalisée, de devenir soi-même. » Et c'est intéressant parce qu'il va même plus loin, il dit que avant même notre conception, nous avons librement accepté notre incarnation, le projet de Dieu que nous soyons en vie. Il considère que nous avons originellement exercé notre liberté en consentant à notre propre création. Voilà ce qu'il écrit. Dieu nous crée en tant qu'être libre et il ne le fait pas sans notre accord d'être nous-mêmes, ni sans notre acceptation d'être créé. Cette conjonction d'une création de Dieu avec une autocréation de l'homme est un mystère de l'œuvre divine qui, étant accomplie, préexiste notre conscience, mais qui reste inaccessible à une exploration plus avancée. Notre mémoire corporelle ne garde pas le souvenir de notre création, mais notre mémoire ontologique, notre conscience s'en souvient. Voilà, notre vie serait donc une actualisation d'une décision originelle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous rappelle le Christ. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce Dieu tout-puissant devant lequel les séraphins s'écartent en tremblant veut faire de nous ses collaborateurs en prenant le risque de dire oui ou non à son projet d'amour. Rien ne peut s'accomplir et s'actualiser dans ce projet de déification sans notre propre participation. Alors, je vais faire une petite incursion dans une différenciation que les théologiens font par rapport aux énergies incréées et à toutes ces notions de devenir Dieu, non pas par nature, mais par participation. C'est des petits détails, mais qui changent beaucoup dans notre façon de prier, de concevoir notre relation à Dieu. Alors, cette participation, c'est par grâce et non par nature. La grâce, elle est incréée. C'est une communion à la vie divine. Saint Cyrille d'Alexandrie explique que le Saint-Esprit s'imprime en ceux qui le reçoivent tel un sceau dans la cire pour nous rendre conformes, c'est-à-dire de même forme, au Verbe de Dieu. Donc on est élevé à l'adoption, on devient fils avec le Fils. Dieu se fait pauvre, s'abaisse, même en se soumettant à la souffrance et à la mort, pour que nous devenions riches. Mais il est important de nous rappeler que nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir, comme le dit l'Exode 33:20, parce que Dieu, en son essence, est complètement redoutable et inaccessible à nous. C'est comme, en fait, voilà, il faudrait des filtres. On dit que d'ailleurs toute la hiérarchie angélique, ce sont des filtres à la lumière de Dieu, parce que sinon on serait aveuglé. Donc il y a une pédagogie amoureuse pour pas que nous soyons complètement voilà brûlés, qui fait que on va pouvoir participer aux énergies de Dieu, aux énergies incréées. C'est comme si nous participions nous pouvons voir les rayons ou nous laisser chauffer par les rayons du soleil, mais voir ou toucher le soleil lui-même, ça serait trop fort. Par essence divine, il faut entendre la nature ou l'être intime de Dieu ou encore la transcendance radicale de Dieu, son altérité. Et les énergies, elles sont à entendre comme des opérations ou des manifestations de sa puissance. C'est la présence de Dieu ou son action vivifiante, sa proximité. Mais ce ne sont pas des parties de Dieu, ce ne sont pas des émanations ou des intermédiaires entre Dieu et nous. C'est vraiment Dieu lui-même dans son activité. C'est Dieu dans son intégralité qui est rendu accessible à l'être humain. Alors ces énergies incréées, quand elles sont déversées sur les saints, elles prennent souvent la particularité de la lumière. Comme d'innombrables cierges s'allumant à un seul feu, ainsi les corps de tous les membres du Christ seront ce qu'est le Christ. Notre nature humaine est transformée dans la plénitude de Dieu, elle devient tout entière feu et lumière, écrit Saint Macaire au IVe siècle. Alors, les pères utilisent aussi l'image du fer dans le feu. Le fer va devenir incandescent, rouge, très chaud. mais sa nature de fer conserve sa nature de fer. Il y a un archimandrite Georges Dumont-Athos qui va donner un autre exemple. Si nous saisissons le fil électrique nu, nous allons mourir. Toutefois, si on peut le brancher à une lampe, ce fil à une lampe, et nous serons éclairés. Nous verrons et nous serons assistés par l'énergie du courant électrique. C'est la vision de la lumière divine qui réalise une véritable union entre Dieu et nous dans sa totalité corps, âme et esprit. Dieu est lumière et il communique de sa clarté à celles et ceux qui s'unissent à lui dans la mesure de leur purification, écrit Siméon le théologien. Ô miracle, l'être humain s'unit à Dieu spirituellement et corporellement. Dieu entre en union avec nous tout entier. Il va dire aussi, Siméon le théologien, que le repentir, c'est vraiment la porte d'entrée idéale pour faire entrer cette lumière dans nos ténèbres. Alors, dans le Nouveau Testament, la lumière n'est pas un attribut, c'est Dieu lui-même. Hein, quand on relit le prologue, le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Dans l'évangile de l'aveugle né, Jésus va dire de lui-même qu'il est la lumière du monde. Et cette lumière, elle va s'incarner tout particulièrement au moment de la transfiguration sur le mont Tabor. C'est vraiment la préfigure de l'annonce du royaume qui commence déjà ici-bas. Ça va? J'ai encore 5 minutes? Dans l'Apocalypse, de nuit, il n'y aura plus, ils se passeront de lampes et de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront pour les siècles des siècles. Alors, la déification, elle se parachèvera définitivement et complètement qu'à la fin des temps. Mais elle est déjà ici et maintenant en train de se réaliser par l'action de l'Esprit-Saint en nous. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, le Verbe divin accomplit la divinisation en la nature humaine qu'il a assumée, c'est-à-dire toute l'humanité présente, passée et future. Donc, cette divinisation se passe en même temps dans le temps et en même temps hors du temps. Elle englobe tous les temps. Saint Maxime le Confesseur dit: Notre Seigneur Jésus-Christ est le commencement, le milieu et la fin de tous les siècles passés, présents et futurs. Voilà, on touche là vraiment à ce temps qui est éternel et intemporel et qui est en même temps tout à fait incarné dans notre espace. Voilà. Alors, en quoi ce mystère de la divinisation a une implication dans notre foi? Pourquoi est-ce que c'est si important? Il y a eu, j'ai pas le temps de vous l'expliquer ici, mais une grande querelle avec un moine Barlaam qui disait: ils sont fous, ces moines du mont Athos, à parler d'énergie incréée, leur ego s'enfle, c'est pas possible de voir Dieu. Et donc, Grégoire Palamas, qui est un moine du mont Athos au XIVe siècle, a dit: mais si, et il a expliqué cette nuance que ce sont les énergies incréées et qui sont déversées sur l'être humain purifié et que c'est une participation à cette gloire divine. Mais voilà, ils ont été vraiment critiqués, considérés comme hérétiques, etc. Donc, voyons en quoi c'est important cette différence. Si nous croyons que Dieu n'est que essence divine, qui n'est que transcendant, donc qui ne serait pas immanent, eh bien ça veut dire qu'il serait autosuffisant, que ce serait un Dieu fermé en lui-même, incapable de communier et de partager avec ses créatures. Et par ailleurs, si nous étions capables de communier à son essence, eh bien, ça voudrait dire que nous, on deviendrait Dieu aussi par nature et par essence. En d'autres termes, tout deviendrait Dieu et rien ne serait essentiellement Dieu. On va retrouver ça dans le panthéisme, où on dit que la fleur, c'est Dieu, l'arbre est Dieu. Pour les chrétiens, on va dire que Dieu est dans la fleur et Dieu est dans l'arbre. La notion de personne et de nature est essentielle pour notre foi chrétienne. Saint Macaire, dans son homélie, le rappelle, « Pierre reste Pierre, Philippe reste Philippe, Paul reste Paul, chacun dans sa nature et sa personne rempli de l'Esprit Saint. » Et au contraire, si jamais on disait qu'il n'y a aucune déification de l'être humain, qu'il y a Dieu, qu'il y a l'homme, mais qu'il n'y a pas ce projet de devenir Dieu, eh bien, ce serait le but de notre vie, ce serait alors de devenir meilleur moralement, de progresser, mais il n'y aurait pas cette communion organique, cette communion amoureuse entre Dieu et nous. La chute a voilé l'image de Dieu en nous, mais ne l'a nullement abolie. Et comme dit Père Sophronie, en ne se prenant que comme des êtres faibles pécheurs, eh bien, en fait, on exclut par là même le vrai repentir. Si on avait conscience qu'on était tellement digne, eh bien, ça nous inviterait beaucoup plus à voir tous nos ratages de cible. On finit par justifier et excuser une multitude de transgressions en disant « Oh, mais c'est humain, on n'est qu'humain ». Et Père Sophronie se fâchait quand il entendait ça. Parce qu'il disait « En se prenant comme des êtres inférieurs au Christ, on refuse en réalité quoi ? On refuse de passer par le Golgotha. » Parce que cette déification, cette résurrection, eh bien, elle passe inévitablement par la mort. Le Tabor et le calvaire, voilà ces deux montagnes qui font partie du chemin. Je vais terminer. Pour continuer un petit peu là-dessus, chez les orthodoxes, il n'y a pas cette notion de devenir meilleur. De progrès spirituel par une ascension qui serait prométhéenne, fondée sur nos efforts. Dieu ne nous demande pas de devenir parfait psychologiquement ou moralement. Il nous invite au contraire à accepter notre incapacité d'accéder à la perfection par nous-mêmes. En fait, la seule chose qui nous est demandée, c'est de l'aimer et de le laisser agir en nous. Donc, s'il n'y a pas un progrès dans le sens volontariste, il y a un approfondissement, car Dieu est infini et inépuisable. Il n'y a pas de limite à ce voyage spirituel qui va de commencement en commencement, vers des commencements qui n'auront pas de fin. Et comme le dit saint Paul aussi, c'est une ascension qui va de gloire en gloire. Voilà, qui continue. Alors, je vais conclure par cette phrase de saint Irénée de Lyon. Il est impossible de vivre sans la vie, et il n'y a de vie que par participation à Dieu. Et cette participation consiste à voir Dieu et à jouir de sa plénitude. Voilà, c'est pour nous chrétiens, la vie en Église est importante. C'est énergétisant de cheminer ensemble parce que le salut est vraiment une réalité ecclésiale, est une réalité de toute une assemblée, enfin de l'humanité. On ne peut pas se sauver soi tout seul, on se sauve avec toute l'humanité. C'est une réalité communautaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit notre Père, hein, on ne dit pas mon Père, il y a cette dimension communautaire. Et il y a cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre de Cyprien au 3e siècle de Carthage, nul salut hors de l'Église. Alors c'est bon de relire Monseigneur Calistus Ware qui dit, oui, c'est vrai, nul salut hors de l'Église, mais c'est l'Église avec un grand E. Elle est bien plus vaste que nos institutions. On peut être membre de l'Église sans l'être de manière visible. C'est pourquoi, explique Olivier Clément, il y a de la sainteté en tout être humain qui participe fortement à la vie, non seulement dans le grand ascète, mais aussi dans l'artiste, dans le chercheur de vérité, dans l'amour entre deux êtres. Les saints sont des grands vivants et les vivants sont des saints. Voilà ce que je voulais vous partager. Sur ce chemin de rajeunissement, hein, le chemin de divinisation. Les pères disent qu'en fait, avant l'exil, on était amené à rajeunir de plus en plus. Hein? La jeunesse était après la vieillesse. Et c'est ce que saint Paul dit quand le vieil homme part en ruine, eh bien, il y a vraiment l'homme nouveau qui peut surgir. Et dans les textes mystiques, on parle d'une église sans rides, sans usure. C'est vraiment notre vocation. Cette divinisation, c'est un bain de jouvence.